Eh bien, ce matin, je veux commencer par un mot de prière. Vraiment, j'ai besoin du Seigneur Jésus ce matin. Seigneur Jésus, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Délivre-moi de moi-même, de mes craintes, de mes peurs. Je suis en famille ici, je suis parmi les frères et sœurs, et je suis avec toi, Seigneur Jésus. Tu es avec moi, tu es en moi. Et au cours de la préparation de ce message, Seigneur, tu as déversé. Tu as déversé ce que tu voulais. Ce n'est pas moi qui ai choisi le message, c'est le message qui m'a choisi. Viens, Seigneur, livrer ce message au cœur, à nos cœurs, à mon cœur, comme tu l'as fait en premier, puis à ceux des frères et sœurs ici à Gatineau, pour ta gloire à toi seul. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, au cours de l'été, j'avais pris trois engagements. Deux au camp des Bouleaux, où Daniel Langlois m'avait demandé d'apporter une étude sur le service, ayant comme thème le service. Et au cours de la préparation de ces études-là, j'ai fait beaucoup de lectures, puis je suis passé sur des passages que je me suis... Oups, là, je fais du feedback. Je ne peux pas me promener, il faut que je reste là. Désolé, je promène? OK, merci. J'ai de la misère à rester en place. Alors, au cours de l'été, c'est ça, j'apporte des messages avec le thème sur le service. Et je fais beaucoup de lectures par rapport à ça, puis ça parle à mon cœur. Le Seigneur, il déverse, puis là, ça vient me brasser, puis ça m'amène dans un passage que je veux regarder avec vous ce matin. Ça m'amène dans un passage dans Philippiens. Un petit peu comme Gaétan. Quand Gaétan il a parlé de Philippiens, là, j'ai dit « Oh, là, on s'en va tous à la même traque, là? » Mais la parole est tellement profonde que je pile pas ses pieds à Gaétan, puis Gaétan n'a pas pilé sur mes pieds. C'est merveilleux l'amour de Dieu, puis d'apprendre à le connaître, puis d'apprendre à le servir ensemble. Alors, Philippiens, j'ai lu un peu sur le contexte de Philippiens. On sait que Paul était en prison, Gaétan l'a mentionné. Il y a 2000 ans, Paul a écrit aux Philippiens. Puis aujourd'hui, on lit cette lettre-là avec beaucoup d'actualité. On la lit, puis on veut la comprendre, puis on veut savoir c'est quoi qu'il y avait dans le cœur de Paul quand il a écrit cette lettre-là. À partir de la prison, même la prison n'a pas pu retenir l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand Paul est en prison, il a pris la plume, puis il s'est mis à écrire. Puis il a écrit à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, je ne pense pas que Paul avait ça en pensée. Là. Dans 2000 ans, Gatineau, ils vont parler de moi. Mais tout de même, il a participé à l'avancement de l'œuvre de Dieu, de la prison. Puis, le Philippien, je ne sais pas si vous le savez, mais il s'est appelé l'épître de la joie. Parce que 16 fois dans l'épître, le mot joie revient. Et pourtant, il n'était pas dans un contexte très, très joyeux. Paul est en prison, puis en plus... Les Philippiens, c'était un peuple qui était pauvre. Mais malgré leur pauvreté, même que dans les Écritures, on voit à un moment donné, Paul y reçoit une offrande des Philippiens, puis il est surpris parce qu'il connaît leur pauvreté. Il dit « Wow, ils se sont dévêtus de ce qu'ils n'avaient pas par bout pour être capables de me supporter dans mon œuvre, dans mon ministère. » Alors, il y a cet attachement affectif de Paul envers Philippiens. Puis quand Paul écrit la lettre aux Philippiens, il est inquiet. En fait, dans la plupart de ses lettres, quand on regarde qu'est-ce que Paul écrit, il est inquiet. Il est inquiet parce qu'il connaît l'ennemi, il connaît la puissance de l'ennemi, il connaît comment on est faible, comment la chair est faible, puis comment c'est l'esprit qui nous porte. Comment il faut faire appel à l'Esprit, puis comment il faut faire appel au Seigneur Jésus pour nous porter. Puis il lance un cri du cœur. Comme dans toutes ses lettres, Paul, il lance un cri du cœur. Puis il veut aviser les Philippiens des dangers qui les guettent. Il veut aviser les Philippiens, eux qui sont face à face avec des contraintes, eux qui font face à face avec... les persécutions, ceux qui font, eux, qui font face à face, même dans l'Église, à des gens qui croient vouloir bien faire, là, puis qui, sans être nécessairement en dehors des doctrines, voudraient prendre le contrôle puis tout dire comment les choses doivent être faites. Puis il met en garde contre ça. Dans le commentaire de John MacArthur, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit que les Philippiens, en fait, quand on va dans Philippiens 4, on trouve qu'il reprend deux personnes. Il reprend dans Philippiens 4, 1, « J'exhorte Évodie et j'exhorte Sitiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur, c'est-à-dire de poursuivre l'œuvre de Dieu et non pas chercher leur propre intérêt ou leur propre gloire. » Puis de ne pas s'approprier non plus la gloire du Seigneur Jésus, mais bien de travailler à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ce qui est déclaré dans les commentaires que j'ai lus. Ce matin, que chacun de nous, incluant ceux qui dirigent les ministères, incluant vos anciens, incluant chacun d'entre nous personnellement, Paul ici nous interpelle à l'unité. Puis c'est la responsabilité de tous de maintenir l'unité. Et on va lire ensemble, si vous le voulez bien, Philippiens chapitre 2, versets 1 à 8. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendait obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est évident ici, Paul nous appelle à travailler tous dans le même un même pas, un même sentiment, un même amour, une même pensée, d'un même âme. Et pour expliquer cela, le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'une plus petite cellule. En fait, la grande cellule, c'est l'Église. Mais Dieu il a mis une institution dans le monde qui ressemble beaucoup à l'Église. En fait, dans son livre, Timothy Keller, The Meaning of Marriage, c'est-à-dire, je m'excuse l'anglais, mais il est écrit en anglais. Alors, The Meaning of Marriage, la signification du mariage. Timothy Keller dit que le mariage explique l'Évangile, puis que l'Évangile explique le mariage. En fait, ce que Dieu voulait, en fait, dans les Écritures, on retrouve le terme Jésus l'époux et l'Église. L'épouse. Et c'est cette image-là que je veux me servir ce matin pour vous expliquer et qu'on puisse regarder ensemble c'est quoi être d'un même sentiment, d'un même amour, d'une même âme, d'une même pensée. Si l'unité dans le mariage est beaucoup de travail, celui dans l'Église est aussi grand. Il faut être intentionnel. Cela n'arrive pas tout seul. De la même façon que pour garder l'unité dans mon mariage, je dois être intentionnel. Pour garder l'unité dans l'Église, il faut qu'on soit intentionnel, frères et sœurs. Et c'est pour ça que Paul il nous appelle à travailler d'un même ordre, d'un même amour, d'une même pensée. Si ça se passe dans le mariage, ça se passe dans l'Église. Qu'est-ce qui se passe quand il y a rupture d'unité dans le mariage? On voit un mariage qui tombe en mode destruction plutôt qu'en mode construction. Le progrès s'arrête. Le mariage, il n'évolue plus. Il ne va pas de palier en palier vers une intimité plus profonde. Bien au contraire, il y a des murs qui se construisent, des ponts qui se brisent, puis on voit que les gens s'éloignent. On voit que des bâtons dans les roues. On oublie que le mariage concerne l'équipe et non l'individu. Wow! Quel grand principe! Quel grand principe il nous est enseigné de se rappeler que le Seigneur ici nous voit comme un, une même pensée, un même âme. Puis il veut qu'on travaille ensemble à l'avancement de son œuvre dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Le mariage, autant que l'Église, c'est au sujet de l'équipe et non de l'individu. On croit que notre opinion est le meilleur. Souvent, et pas rarement malheureusement, quand je discute avec mon épouse ou quand on a un point de discussion, plutôt que de mettre le problème sur la table et de discuter du problème, ce que je veux, c'est faire valoir mon point. Et malheureusement, dans l'Église, on retrouve ce comportement-là aussi. Si ça se passe dans le mariage, ça se passe dans l'Église. On se cramponne dans nos idées. On est convaincu d'avoir raison, que les choses doivent être faites d'une telle ou telle façon. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Ah, il y a peut-être juste moi qui est comme ça. Je veux ça comme ça. C'est mon idée qui doit prévaloir. Si on fait ça comme ça, ça va bien fonctionner. Si ça se passe dans le mariage, ça se passe dans l'Église. On n'écoute plus l'autre. On devient sourd d'oreille. Ah, même si on pense qu'on... Oh oui, j'entends qu'est-ce que tu dis, là. Mais ça n'a plus trop vraiment d'importance, là. Parce que moi, j'ai choisi que c'était comme ça qu'on devrait le faire. Puis là, on cherche des bonnes raisons pour se justifier, pour rester cramponné dans nos positions. On refuse d'être enseigné. Notre cœur enseignable se durcit. Parce que là, comme on n'a pas de notre façon de faire, bien, on dit que ça ne vaut peut-être pas la peine de vraiment perdre notre temps à essayer de s'expliquer pendant longtemps. Puis là, on s'endurcit, mais il y a un homme de Dieu, C.S. Lewis, qui a écrit un jour, « Il se passe quelque chose de terrible dans le cœur qui s'endurcit. » Terrible! Non seulement ce cœur-là ne donne plus d'amour, mais il n'en reçoit plus non plus. Et ce cœur-là s'isole et meurt petit à petit. Comme dans un cercueil fermé. Il n'y a plus rien qui sort, mais il n'y a plus rien qui rentre. Si ça se passe dans le mariage, ça se passe dans l'Église. On évite même de s'alimenter de l'amour de Dieu qui met à notre disposition dans les Écritures, puis dans le partage des frères et sœurs, dans la communion fraternelle. Parce que là, on cherche, hein, on cherche juste ceux qui pensent comme nous, on cherche juste ceux qui nous portent pas contrainte, ceux qui ne mettent pas de bois dans les roues, on cherche juste ceux qui nous ressemblent.
C'est nous qui détenons la vérité. Et dernièrement, je parlais avec mon coach, Gilles Farley. Gilles m'a accompagné dans ma formation de 2005 à 2010. C'est un homme que j'aime profondément. C'était mon papa spirituel. C'est un homme qui m'a accompagné, puis j'aime parler avec Gilles, j'aime communiquer, j'aime... Quand il y a quelque chose qui ne va pas, là, c'est qui j'appelle, c'est Gilles. Je me semble qu'il est sage dans sa façon de réfléchir. Le Seigneur l'a vraiment béni, l'a oint de sa sagesse. Puis, dernièrement, on parlait, lui et moi, puis il me dit, « Sylvain, j'ai fait une lecture dernièrement, puis c'est l'histoire d'un homme qui voit un petit gars après manger du poisson. » Puis là, il va vers le jeune homme, puis il lui dit, « T'aimes ça, le poisson? » Puis le jeune homme, il dit, « Ah oui, j'aime ça, le poisson. Oui, j'aime vraiment ça, le poisson. » Il dit, « Là, il dit, tu l'as pêché, tu l'as sorti de son élément, tu l'as tué, tu l'as vidé, tu l'as fait cuire, tu l'as mangé. C'est pas le poisson que t'aimes, c'est ton estomac. » Il a appelé ça « fish love ». Puis, on a ri ensemble. Mais à quel point, moi-même, je fais ça parfois. À quel point, des fois, j'aime ma femme d'un amour « fish love ». Mon intérêt. « My way or your way », qu'ils disent. Hein? Parce que je cherche à me nourrir, je cherche à avoir des objectifs pour ma carrière, parce que je cherche toutes sortes d'objectifs, toutes sortes de buts. Un n'est pas pire que l'autre. Fish love. Je cherche mon propre estomac. C'est pas ça que Paul dit ici. Paul dit l'équipe avant l'individu. L'équipe avant l'individu. On en vient même qu'à éviter la présence de Dieu. Oh, on va à l'église. Oh, on parle du Seigneur. Oh, on est capable d'entretenir une conversation au sujet d'un ou deux principes de la parole de Dieu. Mais la prière, le temps passé en intimité, le temps vraiment passé en intimité avec Jésus, où est-ce qu'on lui demande, « Seigneur Jésus, change mon cœur. » Viens m'enseigner là où je me fais fausse route. Ça, il y en a de moins en moins, par exemple. Et si ça se passe dans le mariage, ça se passe dans l'Église. Il n'y a plus de recherche de travail à favoriser l'œuvre de Dieu dans nos vies, son avancement. Même si parfois, on peut venir à croire que oui. Ne vous y trompez pas, la Bible nous rappelle que je ne peux même pas me fier à mon propre cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout, nous dit Jérémie 17:9. Le mien ne fait pas bande à part. On est tous sous cette condamnation-là, si on peut dire. Heureusement, Paul nous enseigne à mettre un frein à tout ce chaos. Et la première clé, dans le texte, il nous dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Dernièrement, j'ai ressorti un livre où j'ai enlevé la poussière, puis je pense que ce livre-là, je pense que comme les Écritures, il faudrait que je le lise une fois par année. C'est un livre de C.J. Mahaney. Et ce livre-là s'appelle « L'humilité ». The greatest... là, j'essaie de me rappeler le titre. Et dans ma tête, ça se mélange en anglais et en français. Là. Mais c'est un livre sur l'humilité, puis c'est, l'auteur, c'est C.J. Mahaney. Puis peu importe le titre, c'est l'enseignement qu'il y a dedans qui est quand même assez humiliant. L'humilité a un travail en nous. En fait, l'humilité, c'est quand Lynn et moi, on a commencé à accompagner des couples puis qu'on a pris des cours sur la relation d'aide, une des premières choses qu'ils nous ont enseignées, tu n'arrives pas chez un couple là. Tu arrives chez un couple par en dessous du plancher. Tu t'en viens pleurer avec eux autres. tu t'en viens lui montrer que tu as compassion parce que tu vis les mêmes choses dans ta vie. Parce que toi aussi, des fois, tu aurais le goût de pacter puis c'est partir. Fait qu'arrive pas là. Arrive en dessous du tapis. Puis viens pleurer avec eux autres. Puis viens leur montrer que tu as compassion de ce qu'ils vivent. Puis viens les accompagner dans leur souffrance et dans leur douleur. Humilité. Ouf. Ouch! En fait, quand on veut parler d'humilité, on peut se tourner dans les Écritures parce qu'il y a un texte. Puis là, je vais sortir de ma technologie. Gilles Farley serait fier de moi. Parce que pendant plusieurs années, j'ai été ce qu'on peut appeler un athée à l'électronique. Et maintenant, j'essaie de me débrouiller tant bien que mal. Et j'ai retrouvé ce que je cherche. Fantastique. Romains 15, verset 1, dans la Bible, version Semeur, on lit ce qui suit. « Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. » C'est assez difficile à avaler, ça. Premièrement, moi qui est fort, demain je peux être faible. N'est-ce pas? Parce que si aujourd'hui, le Seigneur Jésus me porte, puis je peux être assez fort pour aller accompagner des gens qui sont faibles, bien demain, c'est peut-être moi qui vais être le faible. Ça peut peut-être être les mêmes gens que j'ai visités qui vont venir me visiter pour m'encourager et me soutenir à travers une épreuve. Dans le verset 2, on lit « Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans sa foi. » Ce n'est pas ma propre satisfaction que le Seigneur Jésus veut chercher. C'est la satisfaction de mon prochain. Une des choses qu'on a appris, ma femme et moi, puis qu'on essaie de mettre en pratique, on a entendu ça dans un message. Si tu veux faire plaisir à quelqu'un, demande-lui c'est quoi qu'il veut. Wow! Principe assez simple, mais c'est quand même vrai. Si je veux faire plaisir à David, demande à David, qu'est-ce que tu aimes, David? Puis là, ils vont me dire, bien, un bon repas au restaurant. Ou ils vont me dire, que tu m'invites chez vous, ça me fait plaisir, me fait chaud au cœur, tu sais. Je m'invite pour souper. OK. Mais je lui ai demandé ce qu'il voulait. Je suis pas arrivé en prenant pour acquis. Hey, David, j'ai fait ça pour toi. J'ai lavé ta voiture. Mais David, il dit, OK, c'est un beau geste, mais la voiture, t'as pas vraiment ça, je l'avais lavé hier. Ça que c'est simple. Comme principe, mais c'est quand même vrai. Satisfaction de son prochain au lieu de mon satisfaction. Car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. » Il parle au Père, puis il dit au Père, « Toutes les insultes que les hommes t'ont faites, Père, à la croix sont tombées sur moi. » J'ai été frappé, puis Seigneur Jésus a été frappé pour toutes les insultes qu'on a pu avoir envers le Père dans notre vie. Or, tout ce qui a été consigné d'autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source, est que j'aime ce mot-là. Quand je manque de patience, là, je cours vers qui? Je cours vers Dieu pour qu'il m'en donne. Et Jacques, dans l'épître de Jacques, on voit ça. Priez pour la patience afin que Dieu vous la donne. Puis priez en croyant l'avoir reçu. Que Dieu, source de patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, ça ressonne comme semblable d'une même pensée, n'est-ce pas? D'un commun accord, d'une seule voix, vous célébrez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, on est après à regarder, les Écritures répondent à l'appel de Paul aussi. Ils nous disent un peu comment le faire. Ils nous disent de nous humilier. Ils nous disent de s'accueillir les uns les autres. Ils nous disent de prendre soin des uns des autres en considérant qu'est-ce que l'autre veut. Pas juste comme moi, je voudrais le faire, mais en considérant aussi comme qu'est-ce que l'autre veut. Jonathan Edwards, qui est un prédicateur du Moyen Âge, dit « Les plaisirs de l'humilité sont vraiment les plus raffinés et les plus exquis au monde. » Les plaisirs de l'humilité. Je ne sais pas pour vous, mais j'en ai beaucoup à apprendre sur l'humilité. Mais il y a un encouragement aussi dans les Écritures. Quand on tourne dans les Écritures, il y a un encouragement à travailler à l'humilité. Et je ressors mon moyen technologique. Pour tourner avec vous dans Ésaïe 66. Ésaïe. Finalement, ceux qui ont la copie papier vont se rendre avant moi. Merveilleux, merveilleux. C'est plus vite, la technologie. En fait, juste une petite parenthèse. Au travail, je suis comme l'athée de l'électronique. Et il y a un de mes collègues de travail, Vilain Garnement, dit qu'ils ont ajusté l'ordinateur à ma vitesse de compréhension. C'est pour ça que mon ordinateur n'est pas vite. J'en reviens pas. Ça, c'est humiliant. Donc, Ésaïe 66, verset 2. L'Éternel le déclare. Voici sur qui je porterai un regard favorable. Sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui tremble à ma parole. Wow! J'en ai beaucoup à apprendre sur l'humilité. Mais quel encouragement! Le Seigneur aime quand je m'humilie. Le Seigneur aime quand je m'attends à lui, quand je veux dépendre de lui, quand je cherche sa présence dans ma vie, pour mes décisions, pour chacun des pas que je fais. Dans le contexte ici, là, Israël, il est convaincu qu'il y a tout parce que c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple choisi. Nous, on est le peuple choisi. On a la loi donnée par notre père Moïse. Puis on a le temple. Puis on a cette religion-là solide. Mais ils ont pratiquement oublié Dieu. Le même problème, le même terrible, mais vrai, le même situation nous guette aujourd'hui. Parce que tout ça, ce que vous voyez, peut devenir une religion. Si on n'a plus de relation avec Dieu, puis on pense que, hey, moi, je suis un baptiste évangélique, puis qu'il n'y a plus rien pour nourrir en dessous, il n'y a plus de fondation, ou moi, je l'ai la bonne solution, vous allez voir ça, je vais conduire ça, cette église-là. Bien, je me retrouve avec de fondement. Parce que la fondation doit être Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui seul. Celui qui est révélé dans les Écritures. Donc, il ne faut pas faire comme les Israélites puis prendre pour acquis qu'on est racheté, on est sauvé. Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à prendre soin des uns des autres. Il faut continuer à s'accueillir. Il faut continuer à s'encourager. Il faut continuer à s'exercer. Il faut continuer à travailler, à être d'un même sentiment, d'un même amour, d'une même âme, d'une même pensée. Dans son livre, C.J. Mahaney raconte une histoire. Celle d'un pasteur Riscuti, qui célèbre ensemble avec son assemblée 25 ans de ministère. Et dans l'assemblée, lors du sermon ou lors de la prédication de ce pasteur-là, dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui, malheureusement, a dû quitter son assemblée pour une division. Il est attristé de ce fait, puis il aimerait comprendre pourquoi l'Église en est arrivée à se diviser au lieu d'être unifiée. Et il écoute le message de M. Riscuti. Puis, à chacun des points, Il passe un commentaire dans son cœur. Le pasteur énumère les faits suivants. Ici, l'assemblée a été construite sur l'amour de la parole de Dieu. Et l'homme de pensée en son cœur, on avait ça. Ici, nous sommes en amour avec Jésus-Christ et ce qu'il a accompli à la croix pour payer pour nos péchés. Et l'homme en son cœur de dire, on avait ça aussi. Ici, nous aimons sa grâce, nous aimons l'adorer en assemblée, le chanter, le louer avec les instruments et vraiment tourner vers nos cœurs, vers Dieu pour lui rendre gloire. Et l'homme dans son cœur de dire, oui, on avait ça aussi. On croit dans l'importance des relations. Et l'homme dans son cœur de dire, on avait ça aussi. Il y a une emphase sur l'humilité, particulièrement chez les dirigeants, autant au conseil que dans les ministères. Oups, on n'avait pas ça. Si l'ennemi veut faire tomber le mariage, il veut aussi faire tomber l'Église. Triste sort qui nous est réservé, car notre ennemi n'a pas changé et notre cœur non plus. La même tentation de vouloir s'élever qui est arrivée dans le jardin d'Éden est encore présente aujourd'hui. On veut encore dire à Dieu, « Dieu, tâche-toi, laisse-moi faire à ma manière. » Tu vois, ça va marcher. Puis on veut dire ça dans nos mariages, puis on veut dire ça dans notre Église aussi. Le cœur de l'homme demeure le même. La bonne question à se poser n'est pas de se demander si j'ai de l'orgueil dans ma vie, mais de demander à Dieu de m'aider à la localiser, cet orgueil dans ma vie, puis à m'instruire dans la façon d'y remédier. Le saviez-vous? On a un ennemi commun, vous et moi. Et pour l'examen de quand j'ai lu sur le fait de se poser la question, de ne pas se poser la question sur se demander si j'ai de l'orgueil dans ma vie, mais plutôt de la localiser. J'ai pensé au test des dents blanches dans l'annonce, le papier mouchoir. Puis là, elle dit, ah oui, c'est vrai, tes dents ne sont pas si blanches que ça. Mais l'ennemi essaie de nous faire croire que nos dents sont blanches. Essaie de nous faire croire que l'orgueil dans nos vies, ça n'existe pas. Mais pourtant, tous les grands théologiens, tous les grands qui ont écrit, ils parlent de l'orgueil dans leur propre vie. Ils parlent de comment c'est un combat dans leur propre vie. Et même si C.J. Mahaney dit, il voulait que j'écrive un livre sur l'humilité. J'aurais pu écrire un sur l'orgueil, mais écrire un sur l'humilité. Il a fallu qu'il s'humilie. Puis pensez-vous que ça date juste d'aujourd'hui ou d'hier ou du temps? Il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. Dans Marc 9, même les apôtres, il y avait ce problème-là. En fait, Jésus se déplace de ville en ville, puis à un moment donné, dans Marc 9, il arrive dans un nouvel endroit, puis il se tourne de côté, puis il lui dit, « De quoi vous discutiez en chemin? » Vous aviez l'air d'avoir un peu de pagaille. Dans... Il dit, « De quoi vous parliez? » Pas un des apôtres dit un mot. Zip! Plus rien à dire. Non, c'est correct. On peut passer. Il parlait de qui était le plus grand entre eux autres. Et pourtant, quand Jésus lui pose la question, il n'a pas grand-chose à dire. Là, t'sais. Ils ne sont pas trop sûrs. Là. Et Jésus de les reprendre avec amour et patience. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit, c'est celui-là qui va être le plus grand. Puis le chapitre juste après, je ne sais pas s'il s'est passé 3 jours, 2 jours. Je n'ai pas l'ordre chronologique vraiment dans les Écritures, mais pas longtemps après, Jacques et Jean viennent voir Jésus. Et ils disent, Jésus, dans mon propre sens d'importance, là, moi, j'aimerais être assis à la droite et mon frère aimerait être assis à la gauche de toi. C'est certain que les apôtres, à ce moment-là, c'était plusieurs années qu'ils passaient avec Jésus, puis ils pensaient que quand Jésus rentrerait dans Jérusalem, il rétablirait son royaume là. Ils croyaient que Jésus pourrait reprendre le contrôle du gouvernement, reprendre le contrôle de la spiritualité, de la religion, puis il était pour rétablir son royaume là. Ils veulent être reconnus. Ils veulent le titre. Jésus devient le moyen de leur propre gloire. Mais Jésus les rappelle à l'ordre en leur disant, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Je vais me révéler, je vais me tenter, on est en famille, je fais le ménage. Quand j'ai commencé mon cours en 2005, j'aspirais à devenir un ancien. Je me disais, c'est écrit dans les Écritures, tu peux aspirer à devenir un ancien. Je vais travailler dans le but de devenir un ancien. Et Gilles Farley, dans sa sagesse, « Prends ton temps, mon homme, pas pressé. On va y aller pas par pas, puis on va amener la croissance dans ton cœur, dans ta vie. » À force de travailler, j'ai commencé à pas juste regarder l'Église avec mon regard, mais avec l'aide des frères et sœurs de Simbeck, avec l'aide des gens que le Seigneur m'a amené à côtoyer, mon regard a fait comme « Et là, je me suis rendu compte que l'Église, c'était beaucoup plus grand que ce que je pensais. C'était bien plus important que je pensais. Ça avait un impact sur la vie de tout le monde. Puis il y avait des gens qui vivaient des choses que je ne voulais pas nécessairement être au courant. Là, j'ai commencé à dire, « Ouais, ben, peut-être qu'on peut passer. Peut-être qu'être ancien, j'y tiens pas vraiment. » À ce moment-là, pas longtemps après, Normand Joseph cogne à la porte chez nous. Il vient nous rencontrer, Lynn et moi. Lynn, on aimerait ça approcher ton mari pour devenir ancien à l'Église en formation. Oh, pas sûr, veux y aller, là? Non, pas sûr. À ce temps, tu m'invites, là? Non, non. Mais là, c'était plus moi qui désirais. C'était quelqu'un d'autre. C'était le Seigneur qui était arrivé et qui m'avait demandé, « Tiendrais-tu nous aider? » Avec humilité, tu viendrais-tu t'humilier pour les frères et sœurs de Gatineau, puis prier pour eux, puis prendre part à leur vie d'église, puis prendre part à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans leur cœur, dans leur vie? Oh Seigneur, je suis pas certain que je suis l'homme que tu recherches, tu sais. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont bien plus qualifiés que moi dans l'assemblée, là, Seigneur. Tu sais, j'essayais de pas trop prendre les responsabilités, pas trop m'engager. Mais aujourd'hui, je suis fier de faire partie de votre conseil et je vous dis qu'il y a des hommes de qualité assis autour de la table. Des hommes qui ne cherchent pas leur propre intérêt. Des hommes qui n'ont pas leur propre agenda politique. Mais des hommes qui veulent l'avancement de l'œuvre de Dieu dans chacun de vos cœurs. Et chacun d'eux est animé par ce désir-là. Puis on a des bonnes discussions des fois. Ça brasse. Mais c'est bon que ça brasse, parce que ça vient nous remettre en question. Comme je disais tantôt, des fois, mon cœur est tortueux, par-dessus tout. Et la raison pour laquelle je voudrais faire valoir mon point n'est peut-être pas tout à fait correcte devant Dieu. Alors, on doit s'humilier ensemble. On doit chercher la face de Dieu ensemble. Et je vous devais prier, s'il vous plaît, pour nous. Pour l'Assemblée de Gatineau. Priez pour nos responsabilités. Paul nous conduit ensuite dans le texte vers l'exemple suprême. Il finit pas avec... il va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Il finit en disant, « Ayez les mêmes sentiments à vous qui étaient en Jésus-Christ. » Quel exemple! Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On n'a pas un sauveur qui est venu nous dire « Humilie-toi, puis vas-y, là. » Je le regardais aller, puis je dis « Non, non. » Il s'est humilié lui-même. Lui-même s'est dévêtu de sa royauté. Lui-même a pris une condition humble pour venir nous montrer le chemin. Lui-même, il s'est sacrifié jusqu'à la mort de la croix. Paul nous conduit dans sa présence et nous dit de considérer ça. De considérer l'humilité de notre Sauveur, de considérer l'humilité de Jésus. Il nous appelle à lever les yeux vers Dieu et à considérer le contraste qu'il y a, comme on vient de le faire, qu'il y a entre le service de Jésus-Christ et les hommes. Qu'est-ce que Jésus a reproché aux pharisiens? Vous chargez les hommes de fardeaux lourds et vous ne levez pas le petit doigt pour les aider. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi comme ça, frères et sœurs. Mais il faut qu'on s'habitue à s'accueillir. Il faut qu'on s'habitue à prendre soin les uns des autres. Puis pas comme nous autres, on le veut à notre propre satisfaction, comme on vient de le lire dans Romains 15, mais à la satisfaction de celui qui reçoit. Tout un défi. Tout un défi. Une grosse commande, comme on dirait chez nous. Une grosse commande. Mais il y a un seul qui a le pouvoir de nous accompagner là-dedans puis de le faire accomplir dans nos vies. Un seul. Puis si on pense qu'on peut le faire par nous-mêmes, par nos propres forces, on va se planter royalement. C'est avec l'aide du Seigneur Jésus, par sa grâce, en le priant, en cherchant sa face, ensemble, qu'on va conserver l'unité, puis qu'on va continuer d'avancer l'Église de Gatineau. Alors, ce matin, quand je suis arrivé, on ne s'était pas parlé, mais j'ai vu le repas du Seigneur en avant. Puis là, Bonnie vient me voir, puis il dit, « Sylvain, tu veux que je m'occupe du repas du Seigneur parce que je ne t'avais pas prévenu d'avance. » Puis des fois, je sais que les prédicateurs, ils aiment ça l'inclure dans leur message. Et je ne savais pas d'avance. Mais de la même façon que le message, moi, choisi, Dieu a choisi qu'un matin, on célébrait le repas du Seigneur. Puis on va le célébrer parce que, sans l'avoir préparé, sans l'avoir vu, on arrive où est-ce que Jésus s'est dépouillé lui-même en s'humiliant puis en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et qu'est-ce qu'on fait avec le repas du Seigneur? On se rappelle sa mort. Mais pas une mort comme n'importe qui, comme il y en a chaque jour dans les nécrologies, là. Non, non, une mort sacrificielle qui paye le prix de mon péché, le prix de ton péché. Une mort qui a tout accompli. À partir de l'Ancien Testament, aller jusqu'au Nouveau, il y avait besoin des sacrifices. C'était des agneaux qui sacrifiaient. Puis ça donnait... Ça couvrait, le sang couvrait nos péchés pour une façon temporaire. Il répétait chaque année, une fois par année, le grand sacrificateur, il rentrait dans la présence de Dieu, puis il venait sacrifier pour le peuple, pour le pardon des péchés. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. On célèbre la mort de Jésus-Christ, et c'est cette mort-là qui a tout payé. Qui a tout payé. Aujourd'hui, tout est accompli. Et on travaille pour l'avancement de son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. On ne travaille plus pour accomplir ce que Jésus a accompli. On travaille pour nous sanctifier. On travaille pour faire connaître l'Évangile. On travaille pour que nos cœurs soient transformés de plus en plus, de jour en jour, à ressembler au Seigneur Jésus. Puis si on vient de le voir, ça prend de l'humilité. Alors, on va s'approcher de la table du Seigneur ce matin. Comment? On va s'approcher de la table du Seigneur ce matin en s'humiliant. On va demander au Seigneur Jésus de venir dans nos cœurs puis de prendre connaissance là, partout où il y a de l'orgueil. Puis je ne demanderai pas à personne de confesser publiquement. Là. Non, non, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de vous accompagner pour votre satisfaction. Et quand on vient dans la présence de Dieu, puis qu'on reconnaît un péché, puis qu'on le confesse, il n'y a rien de plus satisfaisant. Alors, je vous invite à vous approcher de la table du Seigneur ce matin avec cette attitude de cœur, une attitude de confession, une attitude d'humilité. Et ça terminera le message de façon évidente et glorieuse. On va s'approcher de la table du Seigneur ensemble.